Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, la Grande Tchatch, le ravi, nouvelle saison avec nos partenaires, les 3-8 Radio Grenouille. Comme à l'accoutumée donc, c'est un voyage dans les cuisines de la politique régionale avec des invités comme aujourd'hui et ça va continuer tout le long de l'année. Le ravi, votre mensuel, c'est tous les premiers vendredis du mois dans tous les kiosques. Le ravi, c'est également un site internet www.leravi.org sur lequel je vous rappelle que vous allez pouvoir vous abonner. Et l'émission La Grande Tchatch, c'est tous les 4e samedis du mois sur les 3-8. Aujourd'hui, c'est la capitale du Var qu'on va s'intéresser, Toulon, avec Robert Alfonsi. Bonjour.
Bonjour.
Robert Alfonsi, vous êtes conseiller municipal PS et président du groupe socialiste au conseil régional Provençal Côte d'Azur.
C'est cela.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
Robert Alfonsi, vous devriez avoir honte. Nicolas Sarkozy s'efforce pour le bien de tous de nous faire travailler jusqu'à 67 ans. Et vous ? Vous avez osé fêter cette année votre 50e anniversaire et votre départ à la retraite.
57e anniversaire.
Eh oui, 57e. Et votre départ à la retraite.
Eh oui, j'en suis fier.
En plus, cela faisait déjà 7 ans que vous avez déserté la poste, ses centres de tri, ses guichets, bref, que vous avez tourné le dos au travail, pourtant si bon pour la santé. Et pourquoi faire ? On vous le demande. Pour vous livrer à une passion malsaine, l'agitation politique. Ouais. Votre père, il est vrai, vous a montré le mauvais exemple. Militant communiste, cégétiste, il s'est fait licencier de l'Arsenal à Toulon pour son activisme. Plutôt que de poursuivre des études utiles ou de vous engager sous les drapeaux, par exemple, avec seulement un bac en poche, vous adhérez à votre tour au PCF en 71. Les lendemains déchantent en 79 lorsque les chars soviétiques déferlent en Afghanistan. Vous quittez le parti, cherchez une troisième voie, et finissez par trouver la vôtre en rejoignant le PS, oui, en 84, fasciné par Mitterrand, qui en avait déjà déçu quelques autres. Socialiste à Toulon, ce n'est pas toujours marrant. 3 fois candidat au cantonal, vous êtes 3 fois battu.
Oui.
Vous êtes d'ailleurs coutumier des vestes électorales. La plus sévère date des dernières municipales où Hubert Falco a triomphé au premier tour avec 65% des suffrages. Votre score,
14,86.
Mais vous avez la peau dure. Et vous savez choisir vos amis. Vous devenez premier secrétaire de la Fédération Socialiste du Var lorsque François Hollande devient secrétaire national en 97 et, comme lui, vous passez le relais en 2008. Vous devenez aussi conseiller régional lors du premier mandat de Michel Vauzelle, vice-président chargé du personnel, lors du second. Et vous voilà, pour son troisième mandat, propulsé président du groupe socialiste au conseil régional. Votre retraite s'annonce donc active. En plus, vous êtes encore d'astreinte au conseil municipal de Toulon pour porter la contradiction à Hubert, l'omniprésident varois. Finissons sur une note positive, soyons honnêtes. Vos performances s'améliorent. Numéro 1 de la liste Vauzelle au régional dans le 83, vous avez dépassé les 38%. À ce rythme-là, en 2020, vous battrez Falco. Vous n'aurez alors que 67 ans. 67 ans, le futur âge de la retraite, sans décote, si Sarkozy fait passer sa réforme. Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Robert Alfonsi,
tous les espoirs sont permis.
Un commentaire sur ce portrait ?
Non, il est relativement juste. Moi, j'admets qu'à Toulon, on a subi une forte défaite aux élections municipales, qui n'était pas attendue à ce niveau-là, il faut être honnête. Mais je savais très bien que notre principal adversaire municipal, c'était pas tant le maire que le regard du bilan des prédécesseurs. Et c'est vrai que Falco, par rapport au bilan du Front National, il avait quand même amélioré la ville, et donc faire comprendre qu'on pouvait faire mieux, c'était compliqué. Et puis Toulon, vous le savez peut-être, mais c'est pas tout à fait une ville de gauche non plus.
On reviendra bien entendu sur Toulon et ses tribulations. On évoquait, ou plutôt Michel Guéroux évoquait tout à l'heure, votre prise de retraite à la Poste. Les retraites, justement, elles font marcher beaucoup de monde ces derniers temps. Deuxième manifestation, et l'autisme du gouvernement. Alors les socialistes, là-dessus, c'est quid ?
Non, mais les socialistes, ils sont audibles sur cette affaire-là. Ça n'a pas été toujours le cas sur d'autres grands sujets.
Enfin, ils sont audibles, mais selon les sondages, ils ne sont pas forcément
crus. Oui, alors,
crus,
pas encore crédibles. Mais vous savez, il faut regagner de la crédibilité, c'est compliqué. On a vécu un épisode douloureux avec le congrès de Reims. Là, je crois que sur les retraites, il y a une position qui est cohérente, qui est unitaire, dont on peut parler. Moi, je pense qu'avant de dire il faut augmenter les cotisations, il faut travailler jusqu'à 41 ans et demi, 42 de cotisation, il faut voir si avec des nouveaux appels à financement, des créations d'emplois, notamment pour les seniors et pour pour les jeunes actifs, on pourrait peut-être se passer d'aller jusqu'à 41 ans et demi de cotisation. Mais ça, on peut en discuter. Mais le Parti Socialiste a déjà un accord de principe sur on revient à la retraite à 60 ans si nous sommes élus. Donc c'est une base et un engagement très fort.
Alors ça, c'est le Parti Socialiste, oui, hein, qui a pris cet engagement.
Absolument.
Par la voix de Ségolène Royal.
Oui, pas que de Ségolène Royal, de Martine Aubry, de tout le monde.
D'accord, il ne vous a pas échappé qu'il va y avoir aussi des primaires.
Absolument.
Alors est-ce que cet engagement va contraindre les futurs candidats à en
Je
tenir compte
Je pense que
ou
cet engagement engage tout le monde.
Y compris même, le grand absent dont on ne parle pas.
Peut-être que ceux qui voudraient ne pas être fidèles à cet engagement auraient quelque mal à être le candidat du Parti Socialiste. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a un engagement fort qui correspond à l'attente des Français, qui correspond aussi à la lutte contre les inégalités. Cette réforme est inégalitaire et les gens le savent. Maintenant il faut convaincre qu'en face il y a un progrès, il y a un projet alternatif.
Alors comment capitaliser justement ce mécontentement de, on a vu deux manifestations, probablement une autre organisée le 2 octobre.
Oui.
Il y a eu une manifestation tout aussi importante, quoique différente, sur La Poste, et pourtant ça n'a pas abouti. Comment on capitalise tout ça? Comment on le transforme en vote de sympathie, ça?
Écoutez, d'abord, il faut accompagner le mouvement, mais en même temps, il faut faire des propositions qui soient audibles, crédibles, et aller à la rencontre des Français. Montrer que face au projet de la droite, à son autisme, face à quand même des mouvements sociaux lourds, puissants, vous avez parlé de La Poste, près de 3 millions de nos concitoyens ont signé une pétition pour un référendum, c'est pas quelque chose de neutre. Aujourd'hui, certainement 3 millions de personnes ont défilé hier, pas loin de 3 millions il y a 15 jours, et personne ne les entend. Les sondages expriment aussi une sensibilité accrue à ces problèmes-là, et personne ne les entend. Les élections régionales ont montré que le pouvoir était en difficulté dans ce pays, et il n'entend pas. Ce pouvoir est autiste, donc le principal parti d'opposition doit commencer à travailler, à préparer l'alternance, si ce n'est l'alternative. Et donc, il y a tout un travail de réflexion, de convention, d'appropriation d'un projet, de partage de projets, et de dialogue et d'écoute de la société. Ça sera un combat difficile.
Alors, Rafi Hamal, tout à l'heure, parlait un peu de façon codée, celui dont on parle qui est absent, c'est Dominique Strauss-Kahn,
hein,
pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément toutes les
oui,
clés, j'imagine bien que vous avez compris.
Oui.
Et Dominique Strauss-Kahn, effectivement, qui est un des candidats potentiels, putatif,
voilà.
Celui que les sondages donnent comme le mieux positionné, etc. Sur cette question des retraites, s'est exprimé il y a assez longtemps,
oui,
pas dans le sens de ce que défend aujourd'hui le Parti Socialiste, il reste très silencieux dans le moment qui est
écoutez,
le nôtre.
C'est une question à laquelle il devra répondre, si tant est qu'il soit candidat aux primaires. Moi, je n'en suis pas persuadé, hein, pour tout vous dire. Mais s'il est candidat, il sera obligé de répondre.
C'est pas votre candidat, Dominique Strauss-Kahn.
Non, c'est pas le candidat.
C'est un nom qui vous énerve, ça,
Non, moi, il m'énerve pas. Je connais bien Dominique Strauss-Kahn. J'ai fait des réunions avec lui dans le Var. C'est un homme que je respecte, mais je crois que c'est un homme aujourd'hui qui ne correspond pas à la sensibilité de l'état d'esprit de la gauche, à la radicalité qui se fait jour dans le pays autour de la lutte contre les injustices sociales, autour d'un mieux vivre. Et puis, président du FMI, c'est pas neutre. Donc, il y a eu des décisions lourdes pour le peuple grec, pour le peuple roumain, dont il ne partage pas seul la responsabilité, parce qu'on connaît le FMI. Ce n'est pas le président de la France, le président du FMI. Partage la responsabilité, c'est les États-Unis qui font un peu la loi au FMI. Mais quand on est président du FMI, on a une politique difficile à assumer quand il faut se présenter, représenter la gauche d'un pays comme la France, qui est marqué par la volonté d'égalité. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. La France, elle est marquée par l'égalité. Et donc, il y a une vraie, aujourd'hui, une vraie acuité à la lutte contre les injustices et pour l'égalité.
Lors des dernières présidentielles, on avait un Parti Socialiste qui avait un projet, puis une candidate, Ségolène Royal, qui en avait un autre, qui courait sensiblement différent, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à nouveau?
Oui,
est-ce que vous pensez que c'est derrière vous, cette histoire-là?
Non.
Ou est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un candidat qui arrive avec un projet qui soit le sien et pas celui du parti?
Je pense qu'il y a, trois ans, puisque ça fait déjà trois ans, on avait un calendrier qui n'était pas propice à mettre en adéquation la candidate et le projet. On avait fabriqué un projet sans savoir qui allait le porter. Et c'est toujours délicat. Et puis c'est vrai que la candidate a pu être parfois en difficulté avec le projet. Une partie du Parti Socialiste, notamment une partie de l'appareil, s'est désolidarisée plus ou moins, de manière plus ou moins forte de la candidate. Et ça a créé les difficultés que l'on a connues pendant la campagne. On ne va pas répéter tous les épisodes que l'on a connus. Les Grac, Spartacus, Allègre, Besson, Charras. Ça fait beaucoup d'obstacles pendant trois petits mois de campagne. Une campagne trop courte. La candidate n'était pas assez prête. Le parti ne l'était pas assez. Et on a avait eu trop peu de temps pour mettre en place un dispositif professionnalisé et avec un vrai projet politique porté par l'ensemble de nos militants, de nos adhérents.
Justement, Robert Alfonsi, c'est quoi le kit classique démocratique?
Moi, je pense qu'il faut prendre le temps.
On parle avec les militants, on met au point un projet, on le fait valider par un candidat
Non, mais il faut travailler. Vous savez, on connaît à peu près les candidats qui vont participer à la phase finale de désignation. Il y en a 3-4 parmi les candidats qui ont des chances de porter nos couleurs. Donc, à partir de là, il y a toutes des thématiques qui vont être mises en débat par des conventions. Thématiques de la sécurité au mois d'octobre. On en a une, on travaille en ce moment sur l'international. On a travaillé sur l'économie. Il faudra travailler, à mon avis, sur les territoires, notamment par rapport à la nouvelle loi sur les collectivités locales qui est en train d'être discutée au Parlement. Donc tout ça, ça se bâtit. Il ne faut pas couper les décisions et les organisations les unes des autres. Et le candidat devra apporter son originalité, sa sensibilité, mais en tenant compte de ce que le Parti Socialiste a débattu. On ne peut pas couper un candidat du projet, c'est impossible. Mitterrand était porteur d'un projet collectif.
Robert, il a gagné. Il ne vous a pas échappé quand même que ces primaires ne concernent pas que les socialistes, il y a également Europe Écologie, il y a également le Front de Gauche. Ce programme les concerne également ou eux-mêmes arrivent avec leur propre programme?
J'aurais aimé, moi, qu'il y ait des primaires pour toute la gauche. Je crois qu'on ne va pas s'acheminer sur un tel schéma. Je crois que le Front de Gauche a un projet politique. Il a peut-être une difficulté de candidat entre le député Chassaigne et puis Jean-Luc Mélenchon. Les Verts, qui vont devenir une nouvelle structure au mois de novembre, ont envie de présenter un candidat qui peut s'appeler Eva Joly. Et moi, je le respecte. Et je pense que la primaire va concerner... Je souhaite que ça concerne les radicaux de gauche, le Mouvement Républicain et Citoyen, le Parti Socialiste, parce que je ne pense pas au jour d'aujourd'hui qu'on puisse avoir des primaires ouvertes à toute la gauche, comme ça a été le cas en Italie, par exemple. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs que Berlusconi soit élu. Moi, je considère que les primaires, ce n'est pas la pierre philosophale pour gagner absolument les élections.
Et si le MoDem peut s'y présenter à ces primaires ?
Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, personnellement, je pense d'abord qu'il faut que la gauche soit porteuse d'un projet et qu'entre les deux tours, on s'élargisse à d'autres si c'est nécessaire autour d'un pacte républicain et d'un projet gouvernemental.
D'accord. Le Parti Socialiste là, est confronté aussi à une autre actualité.
Il est confronté à beaucoup de choses, le Parti Socialiste, à son histoire, à ses traditions, à ses défauts et à ses qualités aussi.
Quand il n'est pas accaparé par les questions internes dont on vient de parler.
Ah oui, ça nous a pris trop de temps.
La sécurité, Sarkozy a choisi de mettre ce sujet très fortement sur le devant de la scène publique. Oui. C'est ce qu'il lui avait réussi au moment des présidentielles.
Oui, c'est plus compliqué maintenant, quand même, vous l'avez noté.
On a l'impression qu'il y a un flottement au sein du PS entre deux tendances, entre une tendance qui dit il faut être réaliste, on ne peut pas gagner une élection sans se montrer crédible en matière de sécurité, et une autre qui dit c'est un piège, ce n'est pas nos valeurs, il ne faut pas aller là-dedans.
Écoutez, moi je pense que la sécurité, comme les libertés, l'égalité, les questions sociales, les questions liées à l'environnement, les questions liées à la définition d'un territoire harmonieusement équilibré, ça fait partie d'un projet politique. Et aujourd'hui, quand on gouverne la plupart des régions, les trois quarts des départements, pratiquement toutes les grandes villes de France, sauf dans le sud, vous l'avez certainement remarqué, les maires se préoccupent de sécurité, ils sont crédibles, ils sont efficaces, ils font pas de démagogie, ils crient pas tout le temps en faisant essayer de faire peur à leurs concitoyens. Moi, je définirais Sarkozy un peu selon le proverbe ch'timi, vous savez, grand diseux, petit faiseux. Voilà, il parle beaucoup de sécurité, il agit peu, quand il agit mal, il désigne des populations ou des catégories à la vindicte, mais il règle pas les problèmes. Comment peut-on régler les problèmes de sécurité quand on a supprimé depuis 3 ans 11 000 policiers et gendarmes? Quand on ne donne pas à la justice les moyens d'être efficace, quand on ne travaille pas bien avec les mairies et qu'on leur donne de plus en plus de missions sans moyens, alors que c'est là au départ que le diagnostic se fait, quand on supprime, il n'y a plus de surveillants dans nos lycées, dans nos collèges, on supprime des dizaines de milliers de postes d'enseignants.
Justement vous, Robert Alfonsi, vous êtes élu de l'opposition à Toulon. Toulon, cette ville, on a toujours l'impression qu'elle est en équilibre précaire, qu'elle est prête à replonger dans les bras du Front National.
C'est plus compliqué que ça,
Toulon. On recitera tout à l'heure, on parlera des régionales, les chiffres, il y a eu une augmentation depuis les municipales. Une augmentation constante.
C'est clair.
Vous ne pouvez pas ne pas tenir un discours sécuritaire. Mais on risque de le laisser à d'autres.
Non, mais moi, je ne laisse pas le discours sur la sécurité, et c'est qui n'est pas qu'un sentiment, l'insécurité. Il y a des problèmes de sécurité dans certains de nos quartiers, pas toujours d'ailleurs les quartiers sensibles. Il y a des problèmes de sécurité très importants dans les cœurs de ville, qui sont liés à une organisation parfois de la psychiatrie. Tout simplement, de la psychiatrie publique, où il n'y a plus les moyens de garder d'organiser les soins pour des malades qui déambulent dans nos villes, notamment c'est le cas à Toulon, et qui sont laissés...
Ça c'est anecdotique.
Non, c'est pas anecdotique.
Tous les fous ne sont pas lâchés en
ville. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que tout ça... ça fait un sentiment de sécurité, ça participe aux difficultés d'organisation. Alors, il y a les problèmes liés au déficit d'hommes et de femmes qui sont sur le terrain. À proximité, je donne un exemple. En 99, nous avons ouvert un commissariat dans un quartier ouest de Toulon, qui s'appelle La Beaucaire, c'est la plus grande cité, qui est une cité relativement tranquille, mais où il y a des problèmes de sécurité, mais qui ne sont pas au niveau de ce qu'on peut connaître dans d'autres grandes cités marseillaises ou notamment de la région parisienne. Ce commissariat ferme à 19h, il n'est jamais ouvert le week-end. Donc voilà, ce sont des exemples précis où Sarkozy n'agit pas. Aujourd'hui, on supprime des dizaines de postes de policiers dans notre région, de gendarmes, de magistrats, de greffières, d'éducateurs de rue, de gens qui travaillent la proximité. Et aussi, on supprime des subventions aux associations qui traitent de la prévention, qui accompagnent les gamins dans les quartiers, qui les prennent en charge. Tout ça, ça fait partie d'un dispositif. La sécurité, c'est pas seulement la peur du gendarme, c'est l'organisation d'un dispositif permettant à la fois de rassurer, de prévenir et de réprimer. Tout ça, on ne l'a pas dans ce pays aujourd'hui.
Lorsque Ségolène Royal ressort son idée de faire intervenir l'armée pour pacifier les quartiers...
Elle n'a pas dit comme ça.
Je caricature. Elle l'avait fait au présidentiel, elle le ressort aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'elle ne cède pas à la démagogie? Est-ce
non,
que là, le PS n'est pas entraîné vers lequel la droite souhaite l'amener?
D'abord, le PS n'a pas repris cette proposition. Moi, je pense que derrière cette proposition, il faut débattre. Il n'y a plus de service militaire. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent que ça a été une erreur. Pour un tas de raisons, pas pour les problèmes liés à l'insécurité, mais aussi pour des raisons liées à une certaine mixage des populations pendant un an. Les gens se rencontraient, les gens de la campagne, les gens de la ville, les gens des cités, les bourgeois, les pauvres, les prolétaires, ceux qui réussissaient les études et ceux qui les échouaient. Il y avait là le corps social qui, pendant un an, eh bien, était dans un même univers et arrivait à s'appréhender, parfois à se connaître et souvent à se respecter. On ne l'a plus. Ça a été, dans notre pays, une véritable difficulté. Aujourd'hui, que dit Ségolène Royal ? On s'aperçoit qu'il y a des problèmes avec une partie de la jeunesse pour apprendre un minimum de règles et qu'on n'a pas, aujourd'hui on ne l'a pas dans ce pays, les institutions, les cadres pour le pratiquer. Alors on le fait une proposition, qu'on en débatte plutôt que de caricaturer. Moi je n'ai pas de réponse oui ou non là-dessus. Quand on me donne un dispositif qui peut être pertinent,
vous êtes quand même prêt à en débattre,
je suis prêt à en débattre.
À Toulon on a assez de militaires.
Je suis prêt, oui, on a, oui, mais c'est la marine, c'est autre chose. Non, je suis prêt à en débattre de ce dispositif. On peut y mettre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y mettre des moyens? Quel type d'encadrant? Est-ce qu'on fait avec des gamins eh bien, des possibilités d'être encadrés pendant un certain temps, de leur dire voilà, ben, y a des règles à respecter. Est-ce que c'est pertinent? Je n'en sais rien.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous, Robert Alfonsi, vous n'êtes pas totalement hermétique à cette idée d'encadrement militaire?
Là-dessus, je n'ai pas d'avis préconçu.
Vous le demande. Est-ce que vous avez un avis maintenant là?
Je pense est-ce qu'on ne peut pas faire des expérimentations dans ce pays?
Donc vous êtes pour.
Est-ce que, par exemple, dans une région, on donnerait la possibilité à une institution régionale, elle l'a demandé pour Poitou-Charentes.
Ça va faire plaisir à Michel Vauzel, il est au courant de...
Non, Michel Vauzel, là-dessus, il n'est pas demandeur. Moi, je dis que la région Poitou-Charentes l'a demandé. Eh bien, le ministère de la Défense peut-être faire une expérimentation. Si ça marche, on poursuit l'expérience. Si ça marche pas, on arrête. Mais pourquoi on se refuserait, a priori, à expérimenter des dispositifs que des élus locaux réclament sur un territoire donné, sur une particularité précise et avec des moyens bien délimités dans le temps et dans l'espace?
Là, on le voit dans cette émission, mais est-ce que le gouvernement n'est pas gagnant, Sarkozy, malin avec cette affaire, parce qu'on est passé de la question sociale à la question sécuritaire?
Non.
Est-ce que le pays n'est pas entraîné vers une obsession sécuritaire? On a en PACA une droite très musclée, pense à la Thierry Mariani, par exemple, et sa droite populaire,
Estrosi, Lucas,
etc. Est-ce que vous n'allez pas être tout en perdant sur ce terrain-là?
Moi, je pense qu'on serait perdant sur le terrain de la sécurité si on n'en parlait pas, si on refusait par a priorisme, par idéologie, de ne pas en parler. C'est fait partie d'une préoccupation de nos concitoyens qu'il faut traiter. Alors, il ne faut pas le traiter en faisant, comme le fait Sarkozy, des roulements de tambour et en désignant des catégories sociales ou des gens réputés étrangers et dangereux. Ça, c'est prendre les choses de la plus dangereuse des façons. On hystérise le pays, on le met en tension et on ne règle aucun problème. Il faut le traiter de manière clinique, j'allais dire même laïque. Il y a un problème qui se pose, on met quels moyens, on définit quel dispositif, on essaie de faire un consensus national, de ne pas faire de l'insécurité un thème permanent de démagogie électorale.
Ça ne sera pas un thème permanent, mais ça sera le thème, vous pensez, de la prochaine présidentielle?
Non, ça sera le thème que Sarkozy va essayer d'agiter, mais il oublie une chose, Sarkozy, il est au pouvoir, et les problèmes ne sont pas réglés. Et donc, ça sera plus difficile pour lui d'agiter ce thème qu'en 2007, où tout en étant ministre de l'Intérieur, il avait fait oublier qu'il était une pièce maîtresse du dispositif chiracien qui avait échoué en la matière. Là, il pourra pas. Ça a été l'hyper-président, et la sécurité, c'est devenu son fonds de commerce. Il y a un échec. Les atteintes aux personnes augmentent, les vols à main armée augmentent et les moyens diminuent. Donc il faudra qu'il s'explique aussi sur ce problème.
Juste un exemple, Robert Alfonsi. Quand vous marchez dans cette ville qui vous a vu naître, Toulon...
Oui,
qui
j'ai pas peur.
Oui, non, mais ça, voilà. J'imagine bien que vous n'avez pas peur. Mais qu'est-ce que vous racontez aux gens qui vous abordent et qui se plaignent de l'insécurité réelle ou ressentie?
Mais je leur tiens ce discours-là. Je dis que j'écoute d'abord. La gauche a eu tendance à mépriser les concitoyens qui avaient peur. Mais on leur répondait, c'est un sentiment d'insécurité, ce n'est pas l'insécurité. Même s'il y avait beaucoup de vrais, parce que Toulon est une ville calme. Toulon, c'est une des villes de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a des taux de délinquance parmi les plus bas, parmi les grandes villes.
Oui, la délinquance de faits divers, on va dire.
Après, il y a une délinquance de proximité, des incivilités récurrentes qui créent des difficultés. Donc, écoutez les gens, respectez leurs souffrances et essayez d'apporter des remèdes pertinents. Les premiers remèdes, ils dépendent du maire. L'organisation territoriale,
Alfonsi, quand on
les maisons de jeunes qui n'existent pas dans notre ville,
Alfonsi,
les foyers de jeunes qui n'existent pas non plus.
Quand on est socialiste à Toulon, est-ce qu'on est obligé d'être un socialiste un peu plus porté sur la droite sur ces questions-là?
Non, c'est pas vrai.
Parle à cause du passé récent de cette
ville.
Non, je ne comprends pas.
Écoutez, un homme politique, au-delà même des socialistes, doit avoir un discours équilibré en toutes choses. Et avoir des convictions, les défendre, même quand c'est difficile. Moi, j'ai affronté des assemblées générales d'un mouvement HLM très dynamique sur ces questions en disant qu'il y avait peut-être et certainement dans les cités des problèmes d'incivilité, d'insécurité, mais qui manquait aussi des logements, que les logements étaient insalubres, que les loyers étaient trop chers et que les ascenseurs étaient toujours en panne, et que j'admettais qu'on parle de l'insécurité dans cette assemblée générale et qu'on parle un peu d'autre chose, ça serait pas mal non plus. Mais on peut pas nier qu'il faut porter un regard sur ces problèmes-là sans, je vous dis, franchir le trait et suralimenter des peurs qui sont parfois exagérées par rapport à une situation donnée. Mais il faut écouter, respecter, entendre et proposer un dispositif politique pertinent. La pertinence du dispositif politique, c'est son expérimentation.
Alors, on est à Toulon, on a parlé de Thierry Mariani, donc on est en PACA. Donc, vous avez été... c'est pas Thierry Mariani qui a été élu, hein, c'est Michel Vauzelle.
Absolument.
Voilà, président du groupe socialiste.
Oui.
Ce mandat, compte tenu en particulier des réformes en cours, du problème aussi de l'argent, c'est-à-dire de la réduction des moyens pour cette institution.
C'est très lourd.
Est-ce que c'est pas le mandat de l'impuissance? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant ces années-là?
Sachant qu'il y a une réforme au bout, hein, de la collectivité territoriale.
Oui, au bout. Mais le bout, quel sera-t-il? Personne ne le sait. Le bout va être impacté par 2012. Non, moi, je considère que ce mandat, il est scandé par un calendrier très précis. 2010-2012, deux ans de résistance, deux ans où on va mettre en place notre projet avec les difficultés que vous avez énoncées, difficultés d'ordre budgétaire, la fin de la taxe professionnelle, la fin de l'autonomie fiscale, la baisse de dotation globale de l'État, c'est un véritable problème. Donc ça nous oblige actuellement, on y travaille au budget, à faire des choix. Les choix, c'est quoi? Les choix, c'est d'être que notre institution bien soit d'abord un amortisseur de crise, parce que la crise a touché de manière forte les populations, notamment la jeunesse. On prépare un contrat d'autonomie pour la jeunesse. On va travailler sur un plan en direction du logement. On va travailler sur la proximité, pour tendre la main aux gens qui n'ont plus aucune possibilité d'être écoutés ailleurs. Et donc, on va bâtir des dispositifs qui vont répondre à des véritables préoccupations.
Ils auront le temps d'être
oui,
mis en place, parce que
vous
finalement,
verrez,
la description que vous avez fait très bien vous-même, les départements deviennent, enfin les départements, les régions deviennent en tout cas des services quasiment déconcentrés de l'État, avec beaucoup d'impositions, beaucoup d'obligations.
Alors, écoutez, on a des obligations, mais on a aussi des politiques dites volontaristes. Elles existent encore, hein, puisque la loi a un calendrier qui est assez long, et aujourd'hui, les politiques volontaristes, on n'est pas obligé de faire du logement, on va en faire. On n'est pas obligé, par exemple, de faire des politiques de solidarité active, on va en faire. On n'est pas obligé de se préoccuper de la santé des jeunes, on va se préoccuper de la santé des jeunes. On n'est pas obligé aussi de travailler sur des dispositifs d'aide à la culture, on va le faire. On ne va pas se contenter de dupliquer les dispositifs que l'État nous assigne. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à rénover nos lycées, à créer des postes de toast, à essayer de faire mieux marcher nos TER sur la SNCF, mais aussi les moyens à équivalent de ce que nous faisons.
Prenons cet exemple-là, il a été au cœur de la campagne électorale. Là, en ce moment, il y a une pétition de citoyens usagers des transports régionaux qui disent « on veut plus de TER », etc.
Nous aussi.
Oui, c'est le discours, mais est-ce que à nouveau, vous n'allez pas être condamné simplement à réclamer plus de moyens,
vous savez,
plus
nous sommes
à la SNCF, des choses qu'elle ne fait pas.
Mais bien sûr, nous sommes dans une dialectique du rapport de force. Je vous donne un exemple. Ça ne concerne pas la SNCF, ça concerne l'éducation nationale. Nous avons eu un affrontement très dur avec le recteur de l'Académie de Nice à partir du KEN du mois de juin auquel je participe. Nous nous étions entendus avec l'État en 2003 pour construire un nouveau lycée à Drape. C'est-à-dire à côté de Nice.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes président de l'AREA, la Société d'économie mixte des régions qui gère la construction des lycées.
Donc, nous avions un accord avec le ministère de l'Éducation nationale. En 2003, je crois que c'était Luc Ferry. Je peux me tromper, mais je crois que c'était Luc Ferry. Et avec tous les recteurs successifs, il fallait, et avec M. Estrosi, qui était à l'époque président des conseils généraux, les maires du territoire, pour construire un lycée, le lycée de Drape à Nice. À ce KN du mois de juin, le recteur nous dit, écoutez, vous avez le terrain, oui, la mairie nous l'avait donné. On a engagé déjà 3% des travaux du budget global. Et on nous dit, j'ai plus d'argent, je ne peux pas mettre d'enseignants, je ne peux pas mettre de surveillants, et on ne peut pas ouvrir le lycée. Austérité oblige, dispositif d'économie, RGPP, nous a fait tout le laïus que font aujourd'hui les hauts fonctionnaires. Il y a eu une crise dure pendant le KEN, il y a eu une mobilisation cet été des élus, des parents d'élèves, des enseignants de la région, de Michel Vauzelle, qui a interpellé Luc Châtel, et on vient d'apprendre il y a 3 semaines que le lycée va se faire. Donc voilà, c'est un rapport de force. Et c'est vrai pour la SNCF, c'est vrai pour d'autres, c'est vrai pour les écoles d'infirmières et d'assistantes sociales. On est en permanence dans le rapport de force entre ce que l'État veut nous faire faire sans nous donner les moyens et exige de nous en permanence. Donc, c'est un équilibre instable, compliqué, qui nous oblige à faire beaucoup plus de politique, à être beaucoup plus proche des populations et à leurs représentants dans le mouvement social, dans le mouvement syndical, proche des enseignants, proche des parents d'élèves, proche des usagers de la SNCF, pour bâtir des dispositifs et des rapports de force qui obligent l'État à respecter au minimum les missions qu'il nous a assignées.
Au-delà de l'État, il y a la SNCF, vous qui êtes usager ou d'autres, en tout cas à Toulon, sont usagers.
Je ne suis pas satisfait, absolument.
Un membre du conseil régional des Alpes-Maritimes, lui, a déclaré ouvertement qu'il ne serait pas contre la privatisation, en tout cas de faire appel au privé, que la région fasse appel au privé, parce que RFF, les rapports n'étaient pas extraordinaires,
la
SNCF.
Écoutez, moi, je n'abandonne pas l'idée de faire évoluer cette grande entreprise publique, et ce n'est pas l'entreprise publique. C'est après les possibilités financières qu'elle peut avoir. Aujourd'hui,
Monsieur Pépi dit qu'il n'a plus d'argent.
Oui, Monsieur Pépi dit qu'il n'a plus d'argent, mais en même temps, il vient de trouver aujourd'hui des primes pour les non-grévistes. Donc, il y a de l'argent d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Non, Monsieur Pépi devrait se rappeler qu'il a été directeur de cabinet dans une vie antérieure, je crois, d'un ministre qui s'appelait Martine Aubry. Et ça fait partie de ces gens qui, aujourd'hui, ont un peu oublié un passé plus ou moins récent. Et que la SNCF, c'est un grand service public. Et que l'usage de ce service public dans notre région, notamment sur la ligne qui me concerne dans le Var, entre Toulon, Les Arcs et Saint-Raphaël, est indigne d'un grand service public. Et qu'il faut améliorer. Et on y met beaucoup d'argent. 200 millions d'euros par an, nous mettons dans le service public SNCF.
Finalement, c'est pas un gouffre sans fond.
C'est un gouffre, j'espère qu'il ne sera pas sans fond et qu'à l'arrivée, ça ne sera plus un gouffre. Et qu'on rende un vrai... Regardez sur la ligne Aix-Marseille, on a amélioré. Il y a aujourd'hui une qualité plus importante qu'un an avant. On va travailler sur la ligne, sur le tronçon Aubagne-Marseille, Aubagne-Toulon. On va améliorer. On y met beaucoup d'argent. On rénove les gares. On a encore voté ce matin la rénovation de 2 gares pendant la commission permanente. On a acheté du matériel ferroviaire moderne. On paie 300 postes d'agents de sécurité, alors que normalement, ce ne sont pas de nos compétences. Ça serait plutôt l'opérateur public qui devrait le faire. Donc, on intervient même au-delà de nos compétences pour rendre un bon service public à l'usager. Maintenant, il faut que la SNCF, et M. Pépi en particulier, façon de voir, créer les postes de cheminots, et puis permettre aussi qu'il y ait, comment dire, l'entretien souvent du réseau n'est pas fait. Savez-vous pourquoi, par exemple, il y a 2 ans, quand il y a eu l'épisode neigeux à Marseille, les trains se sont arrêtés à PACA pendant 24 heures. Tout le monde dit, c'est pas possible, il y a 10 cm de neige, il n'y a plus de train. Tout simplement parce que pour économiser une équipe de maintenance, on avait supprimé un dispositif automatique qui permettait de réchauffer les rails sur ce type d'épisode. On a économisé quelques bouts de chandelle, on a paralysé la SNCF pendant 24 heures. Donc ce type d'économies ne sont pas des économies.
Vous avez changé de vice-président, c'était autrefois un communiste, maintenant c'est un vert qui s'occupe de ce dossier.
C'est cheminot aussi.
Cheminot, effectivement. Donc,
il connaît son métier.
Et là, c'est un jeu de chaise musicale.
C'est la règle quand il y a pas des changements de majorité, mais la fin d'un épisode et le début d'une autre aventure. Donc M. Petit a remplacé M. Piel, mais dans une dynamique de service public.
La grande tchatche, le ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille. On reçoit aujourd'hui Robert Alfonsi, conseiller municipal PS à Toulon et vice-président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Michel Guéraud.
Alors on parle de la région, il y a une affaire concernant une affaire judiciaire qui agite beaucoup les esprits. Ça nous éloigne peut-être des dossiers, mais ça nous rapproche du fonctionnement de cette institution. Celle à propos des fameuses subventions fictives, on peut le dire comme ça. Alors là, il y a des commentaires, il y a des... C'est quand même un sacré boulet, ça, pour démarrer cette mandature.
Écoutez, ce boulet, il existe depuis 3 ans.
Pour la finir aussi, d'ailleurs, hein, parce que voilà, le scandale date de...
Écoutez, là-dessus, les positions du président sont claires. Je remarque qu'il a été entendu par le juge et qu'il n'y a pas eu de conséquences en ce qui le concerne.
Enfin, il a été quand même convoqué chez le juge, président du conseil régional.
Oui, bien sûr, il a été convoqué chez le juge.
Convoqué par la justice.
Mais Michel Ozel a porté plainte il y a 3 ans, 2007. Je signale quand même que celui qui a porté plainte le premier dans cette affaire, c'est la région. Parce qu'on a été escroqué dans un certain nombre minime aussi. 7 associations sur 89 000. Il y a eu un dérapage, il faudra que le juge dise où il s'est situé et que les éventuels responsables soient punis. Moi, je n'ai pas d'autre commentaire à faire, si ce n'est que l'institution a porté plainte, que le président a été entendu et que ça n'a pas eu de conséquences en ce qui le concerne, comme vous avez pu le remarquer. Écoutez, ça n'a pas eu de conséquences.
Pour l'instant. Alors, on ne va pas commenter une décision de justice alors que l'affaire est en cours. Mais... Par contre, il y a des choses qui sont dites, on peut en parler. Par exemple, Sylvie Andrieux expliquant qu'il y a à la région un authentique pouvoir présidentiel concentré de la part de Michel Vauzel. Est-ce que c'est vrai que ça fonctionne comme ça?
Je vous donne mon expérience de vice-président.
Alors, juste avant que vous donniez votre expérience, je vous rappelle quand même, plutôt aux auditeurs que Nice Matin vous a qualifié d'homme du président.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que vous avez une grande confiance, vous jouissez d'une grande confiance de la part de Michel Vauzel. Donc, j'imagine que vous n'allez pas en dire du mal.
Non, moi je vais donner, j'en dirai pas du mal, parce que en règle générale, je dis pas de mal de mes amis politiques, voilà, quels qu'ils soient. Donc, de personne. Parce que c'est comme ça que dans le combat, on arrive à créer des solidarités nécessaires.
Mais Sylvie Andrieux, c'est pas une ennemie politique. Et pourtant, là, elle dit ça, ça fait des années qu'elle travaille avec Michel Vauzel. Elle dit, voilà, pouvoir présidentiel concentré.
Écoutez, moi, je vais vous donner mon expérience de vice-président sortant au personnel, qui est une délégation quand même sensible. Les vice-présidents de la région, les prédécédents et les actuels sont des acteurs de la vie régionale. Et dans leur délégation, ce sont les patrons de leur délégation. Je peux en témoigner parce que je l'ai vécu pendant 6 ans. Mes collègues présidents dans le dernier mandat et dans celui-là...
Ils n'ont quand même pas de délégation de signature.
Ils n'ont pas de délégation de signature, mais ils sont décisionnaires. Les arbitrages se font collectivement, mais en même temps, le poids du président de la délégation, c'est-à-dire le vice-président en charge de la délégation, est primordial.
Qui a le dernier mot?
Qui a... La plupart du temps, le dernier mot. Oui. Moi, j'avais 220 millions d'euros de budget. On a intégré 4000 agents de TOS. Le président m'a convoqué en janvier 2006, au moment de l'intégration des TOS. Il m'a dit, voilà, tu as 6 mois pour bâtir un dispositif d'intégration des TOS et de dialoguer avec les syndicats. On a travaillé 6 mois avec les syndicats. Il m'appelait une fois tous les 15 jours pour voir si les choses se passaient, comme elles se passaient. On a bâti un dispositif. Au bout de 6 mois, j'avais la signature unanime des syndicats sur le protocole d'intégration. Je suis allé voir le président, je dis, voilà, on peut avoir tous les syndicats, ça coûtera tant. Et pendant 3 ans, on va bâtir un processus d'intégration pertinent, dynamique, social et démocratique. Il m'a dit, bon, vous avez bien travaillé, on y va.
Non, mais ça, c'est pour le mode de fonctionnement en interne sur la prise de décision et l'évolution des dossiers qui ne seront pas de manière linéaire.
C'est pour vous dire que nous sommes des acteurs. J'ai les dossiers dans le VAR.
Parlons, par exemple, des dossiers sensibles, ceux des subventions, par exemple.
Ah, mais je peux vous en parler.
Alors, comment ça se passe? Parce que, bon, certains disent que c'est le président qui a le dernier mot. D'autres disent que c'est le directeur de cabinet qui a le dernier mot. Est-ce que l'élu peut donner...
Absolument, mais je fais ça. J'aurais dû vous apporter les documents que j'envoie au service. Mais je le fais naturellement. Et c'est là où le dossier signalé, dossier de proximité, dossier de territoire,
on peut changer. Ça n'existe pas, Robert Alfonsi?
Comment?
Les dossiers signalés,
mais
ça n'existe pas?
Mais bien sûr, c'est normal. Mais écoutez, nous sommes des élus de territoire. Nous sommes soumis à la pression, mais dans le bon sens du terme, du territoire. Il y a des associations qui viennent voir les élus, ou alors il ne faut pas élire des élus. On les remplace par des fonctionnaires et des bornes vocales. Et comme ça, on économisera peut-être quelques indemnités d'élus, et il n'y aura plus de démocratie de proximité. Moi, je reçois le président du Rugby Club Toulonnais, je reçois le président de la Chambre des Métiers,
je rappelle les privés,
le président
quand
de la
même.
Chambre de Commerce.
Je rappelle
ce matin,
privés,
j'avais dans mon bureau le président d'un grand club d'échecs de Marseille, et qui souhaitait qu'on le soutienne sur des subventions. Il me présente un bon dossier, une association correcte. Je soutiendrai ce dossier et je l'assume. Et le président n'y mettra pas le bout de son nez.
Alors, citons un confrère pour faire ça correctement, mais Mediapart qui a fait un article.
Oui, je l'ai lu.
Vous avez fait une réaction.
Absolument.
À cet article. En gros, il dit, ce qui est en cause, qui apparaît dans cette histoire, c'est l'existence d'un système clientéliste de subventions. le journal dit, et on l'a écrit aussi dans le Ravi, qui remonte à 92, c'est-à-dire à l'époque où Jean-Claude Gaudin gérait cette institution, mais Michel Vauzelle n'a pas su suffisamment, à quel niveau on n'en sait rien, mettre fin à ce système. En particulier dans le deuxième mandat où il y avait une nécessité hein, de co-gérer parce qu'il y avait une majorité relative. Troisième mandat, plus d'excuses là.
J'ai répondu dans cette réponse à Mediapart. C'est si chaque fois qu'on s'occupe de dossiers du territoire, on est accusé de clientélisme, on s'occupera plus de rien. On sera remplacé.
Alors elle est où la frontière, la limite?
Mais la frontière, c'est de connaître d'abord les associations, le sérieux de leurs dossiers, le sérieux de leurs dirigeants. Et quand un service vous dit « il ne faut pas y aller, on n'y va pas », mais quand on le dit de manière sur la pertinence de l'objection. Moi, si on me dit, comme ça m'est arrivé, je vous cite des associations, festival de jazz à Porquerolles, petit festival à l'automne qui ne concerne pas les estivants. Et donc, c'est un festival que je soutiens depuis des années. Le service me dit... n'intéresse pas le service. Ça ne me, c'est pas une réponse qui me satisfait, dans la mesure où je considère que pour le territoire de hier et de cette île, ce festival est important. Si on m'avait dit, les dirigeants d'associations sont suspects, dans les derniers festivals, ils n'ont pas dépensé l'argent pour la donner, je les aurais entendus. Ils m'ont dit, ce festival n'intéresse pas l'administration, c'est-à-dire les gens des services. J'ai passé outre à leur demande, mais je ne crains pas le juge sur ces espèces de décisions, parce que je sais que l'utilisation de cet argent pour ce thème précis, avec cette association précise, a été faite de bonne manière. Donc c'est ça la différence entre le clientélisme et le soutien à des projets de territoire.
Le groupe communiste,
le
groupe communiste, le groupe communiste de la région, oui. le groupe
qui présente jamais écologiste, de dossier de proximité, ça je peux vous le certifier.
Vous interpelle et
vous interpelle,
et disent il faut améliorer, il faut faire mieux.
Écoutez,
j'ai un peu l'impression que vous dites non, ça tout va bien.
On a créé en 2006 une inspection générale des services. On vient de recruter une magistrate, puisque l'actuel directeur de ce service part à la retraite. On a mis des sécurisations maximum. On fait dans nos antennes, on demande à nos fonctionnaires de travailler avec des associations pour vérifier les dossiers. On alerte les élus quand il y a des dossiers. Et moi, au groupe, mon rôle, et je l'ai dit à mes amis, c'est pas de soutenir tous les dossiers. C'est de regarder la pertinence, la qualité, et puis aussi les gens qui nous demande de subventionner ces dossiers. On le fait, on est vigilant des fois pour deux, parce que vous savez, quand vous êtes dans la pression de l'activité politique quotidienne, vous êtes assailli de demandes. Demandes d'emploi, demandes de logement, demandes de subvention. Il faut faire le tri. Donc il faut avoir des gens en qui vous avez confiance, qui vous disent là, il ne faut pas y aller. Là, on y va. Quitte à bousculer l'institution, parce que c'est nécessaire pour le territoire, que dans une commune rurale, eh bien, le club de football, il ne meurt pas. Que dans un quartier de Marseille, des quartiers nord, par exemple, on garde... Voilà.
Robert Alfonsi, vous dites finalement que Michel Vauzelle a pêché par naïveté.
Non, il n'y a pas de naïveté. Michel Vauzelle fait confiance à ses élus, j'en témoigne. Et si vous invitez d'autres élus autour de ce micro, ils vous le diront.
On les a tous
communistes ouverts sont obligés de vous le dire. Ils laissent travailler. C'est pas un homme, c'est pas un dirigiste. C'est un homme qui donne une ligne politique, et à partir de cette ligne politique, au terme d'une mission, il regarde si la mission est faite ou pas faite. Et il laisse travailler, il fait confiance. Et moi, j'aime à travailler avec ce type d'homme politique. Ils ne sont pas tous pareils, droite et gauche confondus.
Michel ?
On en vient à Toulon, parce que le temps passe.
Allez-y.
On a parlé de cet omni-président Hubert Falco. C'est difficile d'exister à l'ombre de ce personnage qui écrase
il son écrase passage ceux qui sur veulent le plan se faire électoral.
Bah écoutez, vous, par exemple.
Non, mais on peut subir des défaites électorales et avoir une existence politique et défendre des convictions.
Pourquoi de pareilles défaites électorales?
Mais je vous l'ai expliqué.
Vous avez été premier secrétaire dans le Var pendant des années.
C'est pas un avantage pour se présenter souvent des élections d'être premier secrétaire d'un parti.
Pourquoi?
Parce qu'on apparaît comme un homme d'appareil et c'est parfois un désavantage.
Oublions vos candidatures, mais pourquoi la gauche est si faible dans
ça? Non, elle n'est pas si faible que ça. Le problème, c'est qu'il y a les élections municipales où Falco a écrasé le débat municipal sans y participer.
Alors qu'on aurait pu penser qu'après, justement, après les chevaliers, la gauche aurait pu pérenniser un avantage et un ras-le-bol.
Oui, mais vous avez quand même vu que Toulon est une ville de droite, depuis quand même l'après-guerre. Et on peut même un peu avant, puisque vous savez, la seule ville qui a ouvert ses portes aux Anglais...
Enfin, c'est pas
pendant
une malédiction
la...
non plus, ça c'est peut changer.
C'est pas une malédiction, ça va changer, moi je me bats pour que ça change, autrement j'arrêterai. Ou alors, j'aurais fait comme certains de mes amis, je serais allé dans une ville plus sûre, où j'étais élu à vie. J'en connais certains nombres, pas trop en région, parce que c'est dur de partout, mais il y a eu des brillants ministres qui sont partis du Vaucluse, par exemple, pour aller en Seine-Saint-Denis, c'était plus facile.
Préférence à Madame Guigou.
Voilà, tout à fait. Nous restons sur place, nous essayons de nous enraciner, de nous battre, de faire valoir nos convictions, d'avancer de certains thèmes, certains sujets sur les régionales. Vous avez vu qu'à Toulon, on a marqué des points par rapport aux élections municipales. Ça veut dire qu'il y a quand même une assise de gauche qui n'est pas négligeable, qui est autour de 38, 40, 42%. Quand un homme qui a la puissance de feu, président du Conseil Général de facto, président de TPM, maire de la grande ville, ministre, c'est pas évident dans les élections municipales d'affronter ce type de personnage, surtout quand il a pris la suite d'un Front National qui avait totalement échoué. Donc là, il va avoir en 2014 d'autres élections. Je crois qu'on va travailler collectivement pour que la gauche soit en meilleur état, notamment travailler le projet, travailler les équipes, pour présenter une capacité d'alternance.
Mais c'est quoi, c'est une question de casting? C'est quoi? Parce que bon, on a les chiffres quand même. Oui. 14% de chômage dans le Var, oui. Plus 10% des rémistes toujours dans le Var.
Plus que ça,
la ville de Toulon...
La plus pauvre avec Marseille. Est-ce qu'il vous a échappé quand même que c'était les villes pauvres qui votaient à droite dans ce pays?
C'est un problème pour le Parti Socialiste.
Absolument, c'est un problème pour le Parti Socialiste et pour toute la gauche. Et notamment les grandes villes pauvres du sud de la France. Pourquoi? Moi je pense que la gauche s'est enracinée dans les couches moyennes, intellectuelles, suburbaines, dans les gens qui sont installés, qui ont un emploi, qui sont sûrs de l'avenir, parce qu'elle leur tient un langage qu'ils entendent, qu'ils arrivent encore à écouter, et que les gens les plus défavorisés souvent ne votent pas, parce qu'à Toulon il n'y a eu que 53% de votants quand même aux dernières municipales. Et c'est là que nous avons perdu une grande partie de notre électorat, parce que quand les gens ne croient plus en rien, quand les gens ne se préoccupent que de la survie pratiquement au quotidien, le discours politique construit, rationnel, élaboré, il n'a pas de prise. Et souvent, quand vous avez la puissance économique, sociale, quand vous avez la manne sur le logement social, ce qui est le cas du maire de Toulon, quand vous avez la manne sur l'emploi public, qui est l'essentiel de l'emploi à Toulon, quand vous avez la manne aussi...
Là, vous êtes presque en train de nous parler de clientélisme. Là.
Non, je vous parle d'une réalité socio-économique, sociologique. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se faire remarquer, il vaut mieux être du côté du manche. Et il y a des gens qui nous soutiennent au régional, qui le font de manière ouverte, et qui, au municipal, n'osent pas nous dire bonjour dans la rue.
Ils vous soutiennent, vous, ou ils soutiennent Michel Bozel?
Parce
que Michel Bozel y arrive très bien pour les régionales,
oui.
Les municipales, c'est les différentes compliqué. Équipes n'y oui, arrivent pas, mais... les législatives encore moins, oui. Les cantonales pas trop, et les présidentielles pas du tout.
Alors, bien sûr, non, mais il y a une personnalité qui s'appelle Michel Bozel, qui est un atout considérable dans la bataille politique. Mais ça, moi, je le reconnais, je lui en laisse la paternité. Il nous a mené 3 fois la victoire dans la région la plus à droite de France, donc c'est quand même quelque chose qu'on lui doit. Et en même temps, c'est vrai que dans d'autres scrutins, les législatives, c'est un peu particulier. Si nous gagnons les présidentielles en 2012, il y aura beaucoup de parlementaires socialistes, y compris dans le Nord, peut-être à Toulon aussi. On en a eu 3 avant la défaite de Lionel Jospin. Donc on a capacité de gagner des législatives. Pour ce qui est des élections de proximité, pour les cantonales, c'est plus compliqué. Il y a un enracinement, il y a aussi, c'est la prime notable, tout le monde le sait. Et puis pour les municipales, je crois que dans nos grandes villes du sud de la France, ça vaut pour Toulon, ça vaut pour Nice, un peu moins pour Marseille, puisque là, la bataille a été équilibrée, hein, puisqu'il y a 4 secteurs à droite, 4 secteurs à gauche. Il faut peut-être travailler de manière un peu plus, anticiper un peu plus ces élections que nous avions su le faire de ces dernières années, travailler à des rassemblements entre les partis de gauche. Il n'y avait pas l'union de la gauche à Toulon, j'ai pas pu la faire, c'était compliqué. Parce que quand la victoire n'est pas facile, eh bien chacun essaye de se compter et puis de préserver ses parts de marché.
Alors Robert Alfonsi, on parle depuis tout à l'heure du passé de Toulon, le passé Front National. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée d'Hubert Falco? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à part la multiplication des palmiers? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé?
Moi je ne caricaturerai pas comme ça, alors que je suis un opposant à Hubert Falco.
Justement, beaucoup de gens vous reprochent de faire une espèce d'opposition courtoise.
Mais oui, parce que je suis courtois naturellement déjà. Bon, voilà, je veux pas
forcer
ma nature.
Est-ce que c'est efficace? Non.
Vous savez, les grandes gueules en politique, ils ont une vie politique assez momentanée. Et en même temps, parce qu'après, il faut aussi prouver. Nous avons privilégié l'opposition et la proposition. Nous faisons des propositions sur tous les grands sujets. Sur les transports collectifs, on dit au maire, il faut faire un tramway sur rail rapidement.
Mais pour l'instant, vous, vous, Vous n'avez pas entendu.
On n'est pas entendu, mais
l'histoire du tramway le prouve.
On a une pétition que l'on soutient, qui a plus de 6000 signatures. Demain, il y a encore des gens...
Un recours en justice, je crois, non, qui est prévu.
C'est, il y a une association qui, si le dossier change de rail, entre guillemets, comme, il doit, comme le maire veut le faire, il y aura certainement des recours, puisque la DUP a été faite sur un tramway sur rail, et qu'on s'apprête à faire autre chose. On soutient le développement de l'université. Moi, je suis très inquiet sur l'avenir de l'université. J'ai fait une proposition au maire de Toulon d'engager des états généraux de l'université de Toulon Sud et du Var. C'est indispensable. Pas seulement pour les affaires qu'il y a eu, mais parce que nous avons...
Je rappelle quand même que l'ancien recteur siégeait avec vous au conseil régional.
L'ancien président.
L'ancien président, voilà. Pardon.
C'était... oui, effectivement.
Mais y a, là aussi, mauvais choix de casting
J'en sais rien, moi. Vous savez, après, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Ils peuvent faire des fautes. Ils peuvent aussi être l'objet, peut-être, d'erreurs. Et on verra. Il y a une instruction. On verra ce qu'elle dira. Mais sur l'université, 10 000 étudiants, on a le plus faible rapport étudiants population de toute la France. Il faut que les élus politiques de tous bords s'engagent sur l'emploi, pratiquer une politique d'emploi, sur le social. On n'a pas assez de logements sociaux, on est en dehors des clous de la loi SRU. On fait des propositions pratiquement... Il n'y a pas de maison de jeunes à Toulon, il n'y a pas d'auberge de la jeunesse. Donc on fait des propositions, surtout, on les met en débat. On va créer certainement, avec d'autres amis, avec le monde associatif, eh bien, un atelier d'urbanisme participatif. C'est nouveau, ça n'existait pas. On va le créer, j'y participerai avec d'autres. On essaie de travailler...
Ça relève du témoignage, ça fait non, pas une non, vague, ça, une lame de ça, fond d'opposition.
Non, ça relève... de l'attention à des propositions pour qu'elles deviennent après... Vous savez, moi, je suis un peu gramscien avant d'être social-démocrate. Je pense qu'on gagne la bataille politique si on a gagné d'abord la bataille culturelle et idéologique. Sur des projets, 4-5 projets, où le maire de Toulon fait vraiment des erreurs qui vont être marquantes pour l'histoire de cette ville à 10, 20 ou 30 ans, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux Toulonnais, il faut faire bouger le maire. Sur le transport, sur l'université, sur la rénovation du centre.
Sur le transport, vous êtes un petit peu impliqué. Parlons de cette histoire de tunnel sans fond.
Oui,
sans
c'est
fin,
un tunnel sans fond qui a commencé.
On a un peu la même chose avec la L2 à Marseille.
Absolument, en pire.
Et le coût augmente, 300 mètres, les 300 mètres les plus chers du monde.
Oui.
Et là-dessus, la région finance quand même.
Ben, la région, on est obligé de finir ce trou, cher ami. Comment voulez-vous qu'on fasse? On va en faire une champignonnière, autrement, ça serait dommage. Ou alors un abri anti-atomique pour attendre la bombe iranienne qui va un jour exploser sur la rade navale de Toulon. Donc, il faut finir. J'étais contre le tube de Toulon, donc j'étais un des rares élus, de gauche compris, qui disait c'est un dispositif qui est déjà caduque avant qu'il sorte de terre.
400 millions,
voilà.
Ça fait cher.
On sera 1 milliard d'euros sur les deux tunnels. Donc c'est considérable, ça ne réglera rien, parce qu'en 10 ans, il sera saturé. Et que si on ne fait pas en même temps la contournante nord, les deux tubes et le tramway, on aura une saturation souterraine et urbaine. Donc c'est une erreur colossale. Il y a des erreurs comme ça qu'il faut assumer. C'est Jean-Claude Gaudin qui a commencé, et c'est Michel Vauzelle qui finira, mais on n'était pas au début de la décision. C'est une bêtise qui coûte cher, qu'on va finir, qui va faire du bien pendant quelques années, et on s'aperçoit que la partie du tube ouverte, ça déplace les embouteillages à quelques kilomètres avant le centre-ville, ça ne les règle pas. Donc il y a tout un dispositif.
Pour les Toulonnais qui lisent leur avis, la fin 2013, c'est quand?
Écoutez, la fin,
Inch'Allah.
Si on est optimiste, 2013, moi j'ai peur que ça soit un peu plus tard. Mais je touche du bois. On nous avait dit 2009, 2011, 2012, 2013, toutes les années on prend un an de plus, c'est 25 millions
de plus. En tant que bailleur de fonds, vous êtes informé un peu de l'évolution de votre ville?
Il a fallu qu'on tape du poing sur la table. Depuis qu'on a tapé du poing sur la table, nous sommes informés, mais on nous dit que ça coûte tant, quoi. Hein. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, le surcoût évalué du second tube, c'est 100 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est gigantesque. Voilà, on est dans la disproportion. Il y a des responsabilités qu'il faudra bien établir, puisque c'est l'État quand même qui est maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, il y a des responsabilités qu'il faudra bien établir. On a creusé au même endroit. Et au même endroit qu'il y a 12 ans, il y a eu aussi il y a eu des vraies difficultés qu'on n'a pas totalement réglées.
Hubert Falco, alors, c'est quoi? C'est un mystère, là.
C'est
quand même le maire type... UMP d'une ville importante, le mieux réélu de France.
400 000 habitants, ouais.
Oui. C'est... Alors, c'est un magicien.
Non, c'est pas un magicien. C'est un homme qui a pris la succession d'équipes Front National discréditées sur une ville de droite. Donc c'est plus facile pour un homme de droite de remplacer un front qu'un homme de gauche, c'est clair. C'est un homme qui se préoccupe pratiquement quasi quotidiennement.
Je veux dire, à Vitrolles, c'est la gauche qui a remplacé le
oui,
parce qu'il y avait, MNR.
Mais parce qu'il y avait à Vitrolles une tradition de mairie de gauche, qui n'est pas le cas à Toulon. Depuis la Libération, il n'y a plus un seul maire de gauche. Donc c'est plus facile, c'est plus naturel à Toulon de voter à gauche qu'à Vitrolles ou qu'à la Seine ou qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple. À Toulon et Nice, c'est quand même des villes qui, sociologiquement, devraient devraient peut-être voter à gauche, mais pour les tas de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ne le font pas. Ça vaut pour les responsables politiques de gauche, qui sont certainement responsables de ces échecs successifs, et ça vaut aussi pour nos partis nationaux, notamment quand il y avait le Front National, qui nous ont pas aidé au niveau où on le souhaitait. Notamment, on avait demandé qu'on nous aide de manière un peu plus pratique, qu'on nous aide à comprendre. On voulait les aider à comprendre ce qui se passait dans une grande ville que le Front gagnait. Voilà. Et là, on n'a peut-être pas été écouté comme on l'aurait souhaité.
Et aujourd'hui, la gauche préfère voir Falco que le Front revenir.
Bah, écoutez, Falco, c'est un adversaire politique, c'est pas un ennemi. Et voilà, c'est un démocrate. Un démocrate paternaliste.
Enfin, la société civile dit qu'il a une démocratie qui est oui, très alors, personnelle.
C'est, c'est du paternalisme autoritaire. Voilà, voilà, pour le définir. C'est un paternaliste autoritaire. Falco n'aime pas qu'on lui résiste, y compris dans le monde associatif. Seulement, les gens qui font des confidents dans le monde associatif, est-ce qu'ils les font publiquement?
Oui.
Très peu.
Ceux qui soutiennent, par exemple, ceux qui sont contre l'incinérateur qui se trouve en centre-ville.
Oui.
Ceux qui sont contre la présence de sous-marins nucléaires.
Oui, ça, c'est pas c'est pas les dossiers les plus dangereux pour Falco parce qu'il n'est pas à l'initiative de ces dispositifs.
Enfin, il y a un deuxième incinérateur qui va voir le jour.
Oui,
quand même.
Mais ça, c'est pas le plus compliqué. Vous savez, moi, j'ai vu beaucoup d'associations pendant le Front National. Et là, malheureusement, ce que je veux dire, ça va peut-être choquer, mais vous savez, j'ai dit que je ne pratiquais pas la langue de bois, je vais le faire. Il y avait beaucoup de faux Jean Moulin pendant le Front National. Beaucoup de gens qui...
Vous voulez dire qu'il y avait beaucoup de collabos à Toulon?
Non. C'est-à-dire qu'on se faisait passer un peu pour des faux résistants facilement. Quand on était pris en...
Donc des vrais collabos.
Non, c'est pas ce que je dis. Essayez de m'écouter jusqu'au bout. Sur le Front National, quand on était faisait partie du monde associatif, c'était facile de dénoncer le Front National. Parce que quand on se disait contraint par le Front National, quand on se disait attaqué par le Front National, ben vous aviez l'aide du département, de la région, de l'État, parfois de l'Europe. Et donc, vous pouviez vous passer facilement des subventions du Front National, et en plus, ça vous faisait une assise dans la ville, une légitimité historique et politique. Aujourd'hui, c'est plus difficile de résister à Hubert Falco publiquement. J'en connais quelques-uns qui le font, j'en connais pas beaucoup. Et moi, on me fait beaucoup de confidences en off, mais surtout, ne le dis pas, et ne dis pas que je te l'ai dit, parce qu'autrement, on veut me couper la subvention, et
Donc, ça reste entre nous. Vous accusez un petit peu cette espèce de lâcheté ambiante.
Je pense qu'il y a eu une organisation, je ne me permettrai pas de parler de lâcheté, il y a eu une organisation du territoire toulonnais, du département du Var, où aujourd'hui, le département supprime des dizaines de subventions à des associations qui faisaient un travail remarquable, sans que ça fasse trop de
Géré
révolte.
Géré par Horace Lanfranchi,
voilà,
le département.
Sans que ça fasse trop de révolte dans le Landerneau, parce qu'on essaie toujours de se sauver en disant je suis discret, il m'enlève 20 000 euros, il m'enlève 5 000, eh bien, je vais faire ce que je... mais je dis rien, parce que ces 5 000, il me les faut. Et je comprends que les gens réagissent comme ça. Ceci dit, pour le climat démocratique, c'est car... ça ne fait pas partie d'une bonne santé démocratique.
En même temps, Michel Bozzel, aux dernières élections, a salué Hubert Falco pour son opposition, pour son travail.
Donc,
finalement, les gens sont un petit peu désemparés parce qu'ils se disent bon, finalement, la gauche, elle a une opposition, comme je disais tout à l'heure, courtoise, la droite nous tape dessus, qui nous reste? Le Front National.
Non, mais écoutez, la gauche a une opposition courtoise, mais c'est une opposition qui fait des propositions, qui s'oppose, qui vote contre les budgets, qui essaye de faire partager ses projets à d'autres. On y arrive sur certains dossiers, je parlais du transport en commun, en site propre, on l'a fait partager à 6000 personnes qui ont osé signer une pétition. C'est la première fois que ça arrive depuis longtemps. On va lancer une pétition.
Vous êtes en train de décrire une ville sous la milice, là, quasiment.
Non, je dis une ville sous contrôle. Oui, c'est une ville sous contrôle. Voilà, c'est la réalité.
C'est-à-dire que si moi, demain, je signe une pétition, je risque d'avoir...
Si vous êtes président d'association et que vous signez une pétition sur quelque chose qui met vraiment en cause le maire, ça peut avoir des conséquences, oui, absolument. Ça peut avoir des conséquences.
On parle du Front National. Dans le Var, il est au moins de retour dans les urnes. Est-ce que, pour vous, c'est une menace?
Pas encore au niveau de la menace. C'est une menace sur, comment dire, l'ambiance. Voilà. Il y a des sujets qui étaient moins prégnants et qui risquent de le redevenir. Voilà. Je ne pense pas que le Front National soit en situation de gagner la ville ou même un canton de la ville ou une circonscription en 2012.
Je rappelle que c'est 19,98 voilà, tours régionales.
20% des voix, ouais, à peu près. Oui.
11,17 aux européennes et 6,55 aux municipales.
Mais il y a un terreau.
Une espèce d'augmentation constante.
Oui, on revient au terreau des années 80. Hein, où le Front National... Alors, la différence, c'est qu'il n'y a plus d'appareil.
Les mots sont les mêmes que dans les années 80?
Là, aujourd'hui, on ne les voit pas. Il n'y a pas d'appareil. Dans les années 80, il y avait un appareil puissant. militants, des centaines de personnes, des organisations qui s'apparentaient à ce que la gauche savait faire dans les années 60, 70 et un peu avant, comme le Secours Populaire, qui s'appelle la Fraternité Française, et qui maillait tous les quartiers de Toulon, où il y avait la solidarité de petit blanc à petit blanc. Et c'était puissant, c'était pesant, c'était visible, et c'était fort. Ça n'existe plus. Le terreau militant a disparu. Mais les idées sont là. Et c'est encore plus dangereux, à la limite, parce que 100 militants arriver à faire 20%, ça veut dire que les idées sont là, ancrées, enracinées, sur des peurs, sur des rejets de l'autre, sur une certaine désespérance sociale, et puis sur aussi, il faut le dire, on se l'est souvent caché à gauche, sur l'approbation par une partie non négligeable de la population des thèses xénophobes, voire racistes du Front National. On veut plus vivre avec un certain type de population, on ose le dire, on ose le revendiquer. Moi, je connais beaucoup, y compris parmi des gens qui ne se situent pas ni à la droite ni à l'extrême droite, des gens qui ne vont plus faire les courses sur le cours Lafayette parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de revendeurs d'origine maghrébine. On vous le dit de manière publique à Toulon, on ne le disait pas il y a encore quelques mois, voire quelques années. Donc, ça participe d'un changement de climat. Les 20% du Front National, ce n'est pas un danger de prise de pouvoir, mais c'est le danger de faire peser un climat, une sorte de pression permanente qui obligera les hommes politiques, notamment ceux de droite, qui sont plus sensibles à des clientèles qu'à des citoyens, d'épouser tout ou partie de leur discours. Voilà, il n'y a pas de résistance non plus.
L'antidote, Robert Alfonsi ?
L'antidote, c'est que la gauche et au-delà présente un projet crédible, se rapproche des populations les plus en difficulté, retrouve une certaine pratique militante. Vous savez, on a battu Hubert Falco dans tous les quartiers populaires de Toulon, à la région. On a fait un porte-à-porte comme on n'avait jamais fait. On a fait des prises de parole dans tous les quartiers populaires. On a parlé avec des mégaphones à l'ancienne et on faisait descendre les gens des cités. On leur parlait de leurs besoins, de ce qu'on pouvait faire avec eux, de ce qu'on ne pouvait pas faire aussi. C'est-à-dire on ne pouvait pas embaucher tout le monde dans la région. On ne pouvait pas donner de l'argent à tout le monde. On ne raserait pas gratis. Et Michel... Bon, ce discours, redonner du contenu, redonner du sens, faire des Toulonnais et au-delà des citoyens et pas des affidés. Voilà, c'est le gros défi de la gauche. Et dans le Sud, peut-être plus qu'ailleurs.
La stratégie de la droite d'essayer de s'emparer de cet électorat en allant sur ces thématiques, elle est perdante ou elle peut être...
C'est l'avenir qui le dira. Moi, je crois qu'elle est perdante parce qu'ils gouvernent. Et que les gens, quand même, ils ont la mémoire de ce qui se passe. Vous savez, quand vous allez à un commissariat déposer plainte et qu'on ne l'apprend pas, quand vous appelez le soir le commissariat de police et qu'il ne se déplace pas, quand les problèmes récurrents demeurent et que vous êtes aux responsabilités, c'est difficile d'avoir le discours de celui qui va tout régler alors que vous êtes celui qui doit régler. Et donc là, la difficulté pour le pouvoir aujourd'hui dans cet épisode politique un peu sécuritaire, et on le voit dans les sondages et dans les élections, c'est la crédibilité. Il n'est pas dans la situation de 2007. C'est une autre chose pour lui.
Robert Alfonsi, Toulon, on l'a vu malgré une bonne gestion. Hubert Falco, l'endettement n'est pas énorme, 747 oui. euros par habitant, ce qui ferait rêver à Marseille.
Oui.
La fiscalité n'a pas beaucoup augmenté,
non.
Même si la fin de l'exception varoise, avec une augmentation
mais
au Conseil général,
à TPM quand même.
A eu lieu. Elle est condamnée à être la ville discrète entre Nice et Marseille.
Non,
voire moi je crois non. Alors,
on peut pas. Moi, je pense que notre solidarité, notre proximité est marseillaise et pas niçoise. Voilà. Non, voilà.
Plaisir, Monsieur Estrosi.
Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. C'est 60 kilomètres. Il y a un lien direct. D'ailleurs, vous allez voir le rugby club toulonnais. Il joue au Vélodrome. Il joue pas au Stade du Ré. Donc voilà, c'est comme ça. L'université, les gens vont plus volontiers à Aix qu'à Nice. Donc là, il y a une réalité de proximité. Il faut travailler les complémentarités. On ne sera pas la capitale de la Provence à Toulon. Il faut travailler ce qu'on sait faire. Au niveau de l'université, on faut trouver des niches qui nous différencient d'autres universités. Par exemple, il y a une niche, on pourrait travailler avec l'IRIS pour travailler sur un laboratoire de stratégie maritime sur la Méditerranée. Pourquoi ne pas le proposer ? Moi, je l'ai proposé, je travaille, on va demander d'ailleurs à travailler avec le maire, s'il est d'accord avec l'université, faire ce type de proposition pour placer Toulon. Il faut à Toulon quelques pôles d'excellence que nous n'avons pas. Alors, il y a le pôle de compétitivité maire, qui j'espère marchera, on l'aide au niveau de la région, on essaie d'y croire. C'est compliqué, parce qu'il n'y a pas l'habitude dans ce territoire de travailler de manière partenariale. Donc, c'est une ville qui a des potentialités, surtout sur son sur son périmètre d'agglomération. La Seine-sur-Mer, hier, il faut qu'elle trouve quelques particularités à développer. On pourrait travailler sur un pôle petite enfance au niveau de la santé, on peut travailler sur le pôle gériatrique que nous n'avons pas, le développement universitaire, et ça passe aussi par du logement pour les actifs, logement social, transport, formation, développement
économique.
Logement
social qui est un peu partout en PACA avec le foncier, un des parents pauvres.
Oui. Et ça passe aussi par l'attractivité de la ville-centre qui n'en a pas assez.
Robert Alfonsi, 2014, vous êtes candidat pour les municipales ?
Écoutez, là, c'est beaucoup trop tôt. 2014, est-ce que j'en aurais envie ? Je n'en sais rien. Donc, est-ce que mes amis en auront envie ? Je n'en sais rien non plus. Moi, je travaille à créer les conditions d'une alternance, que ça soit...
Vous verriez d'un bon oeil, vous avez parlé de l'axe Toulon-Marseille, vous verriez d'un bon oeil le fait que Jean-Noël Guérini soit candidat et prenne la mairie ?
Ah oui, si un socialiste prend la mairie de Marseille, j'en serais très satisfait.
Dans ces
et
cas,
si c'est Jean-Noël Guérini...
Vous seriez pour la grande communauté...
Mais écoutez, ça, je crois que ce sont des extrapolations assez technocratiques. La grande métropole, je n'y crois pas beaucoup.
Vous n'y croyez pas beaucoup ?
Pas beaucoup.
Merci Robert Alfonsi. Voilà, je vous rappelle à tous les auditeurs et les auditrices que le 4 octobre, le Ravi parle de culture. Il organise un débat autour de différents invités avec pour thème Marseille, capitale européenne 2013. Ça se passera au cinéma L'Alhambra dans le 16e arrondissement. Les représentants des trois collectivités seront présents. Il y aura Michel Peset pour le conseil général, Patrick Menucci pour le conseil régional et Renaud Muselier pour la mairie de Marseille. L'entrée est bien entendu gratuite. Venez toutes et venez surtout tous nombreux pour poser les questions. Je vous renvoie d'ailleurs sur cette question de la culture Marseille capitale européenne 2013 sur le Ravi de ce mois-ci qui est encore dans les kiosques. On en parle. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Merci.
La grande tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.